Le plaisir.
Beaucoup de chaleur, beaucoup de...
Justin Timberlake.
Hyper excitée, j'adore les premiers rendez-vous.
Je ne suis pas que ton objet de désir.
Dans la nature, à la mer, en ville.
Pas à pleine lumière et pas non plus dans le noir total. Tamiser, c'est bien.
Le matin, en été, je trouve que c'est le top.
Et ma sexualité, je la préfère aujourd'hui parce qu'elle est... elle m'appartient plus. Je l'ai mûrie et je l'ai pensée et surtout, je l'ai testée.
Prendre la caméra, bousculer les regards, raconter notre société d'aujourd'hui sans aucune complaisance. Cette puissance du cinéma, actuellement une nouvelle génération de réalisatrices s'en empare. Comédie, drame, romance ou thriller, film d'action, elle s'attaque à tous les genres et elle crève l'écran. Pour les femmes, c'est très énergisant. Et ce n'est pas un hasard si c'est dans le milieu du cinéma que l'affaire Weinstein a éclaté. Sexisme, harcèlement sexuel, viol, domination. Depuis cet électrochoc mondial, actrices et cinéastes s'engagent plus que jamais. Elles militent, elles s'unissent, elles affirment leur féminisme. Le cinéma peut-il changer les rapports hommes-femmes? En quoi modèle-t-il nos désirs? Et comment diriger le film de sa vie? Je suis Dalila Kerchouch, grand reporter à Madame Figaro, et vous écoutez un podcast nommé Désir. Dans chaque épisode, je vous invite à rencontrer des femmes engagées qui ont mis leur corps au cœur de leur émancipation. Aujourd'hui, j'accueille la réalisatrice et productrice Lisa Azuelos. Bonjour Lisa.
Bonjour Dalila.
Lisa, on vous connaît surtout pour votre film LOL avec Sophie Marceau, sorti il y a plus de 10 ans et qui a été vu par plus de 5 millions de spectateurs. Le succès a été tel que vous avez réalisé un remake américain avec Demi Moore et Miley Cyrus. L'amour, vous le filmez dans tous ses états. À travers une rencontre avec Sophie Marceau et François Cluzet, ou à travers aussi la vie de la chanteuse Dalida. Dans votre dernier film, le documentaire Your Love, vous posez votre caméra dans des collèges et des lycées pour écouter des jeunes parler d'amour, de sexualité, de porno, des réseaux sociaux et des rapports filles-garçons. Vous avez aussi créé l'association Ensemble contre la gynophobie pour lutter contre les violences faites aux femmes. Lisa, vous êtes née à Neuilly-sur-Seine. Votre mère est l'actrice et chanteuse Marie Laforêt. Petite fille, aviez-vous déjà un tempérament affirmé?
Je crois que j'ai toujours eu un tempérament très affirmé et en même temps j'étais extrêmement vilain petit canard. Je ne me sentais jamais à ma bonne place et dans la bonne famille.
Vous vous êtes construite sur cette dualité?
En fait, je me suis construite comme j'ai pu parce que de 0 à 8 ans, j'étais en pension. Et depuis que j'ai des enfants, j'ai remarqué à quel point c'était important d'avoir un cadre et une famille dans les premières années. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir un foyer stable dans mes premières années. Et je pense que du coup, ma stabilité, ça a été moi-même. Ce qui est une énorme chance dans une vie et ce qui est aussi un énorme manque de certitude quant à l'amour, en fait. Normalement, un enfant est toujours confirmé dans le fait qu'il est bien là, que c'est bien ses parents, qu'on l'aime, que tout va bien se passer. Le soir, il s'endort dans sa chambre, etc. J'avais pas de parents pour me dire bonsoir ou bonjour. Et du coup, je devais me raconter mes propres histoires. Alors, ma grande chance, c'est que j'étais avec mon petit frère. Et du coup, je devais un petit peu jouer le rôle de la maman. Donc, j'ai toujours été une caring person, comme on dit en anglais, quelqu'un qui s'occupe d'eux. Donc, c'est par l'amour que j'ai donné aux autres que j'ai pu entrevoir ce qu'était l'amour, finalement.
Et c'est ça qui vous a donné la force que vous avez aujourd'hui?
Je pense que certainement, quand on est très, très solitaire comme ça, très jeune, ça oblige à ne compter que sur soi. Après, c'est un grand, grand leurre de penser qu'on ne peut compter que sur soi. Moi, j'ai été plus obligée de déconstruire ma force que de construire une force. J'étais dans des lieux qui étaient parfois très hostiles, avec des enfants qui étaient un peu maltraités aussi, donc qui n'étaient pas forcément hyper gentils. Et ce qui est drôle, c'est que tout ça se passait dans des cadres très, très bourgeois, en fait. J'ai tout de suite appris, finalement, que la bourgeoisie ne protégeait pas forcément énormément de la violence. C'est dommage parce que ça doit être extraordinaire de rencontrer l'amour en premier lieu. Mais finalement, c'est pas mal de l'avoir en deuxième partie de programme aussi, quoi.
quel rapport au corps et à la féminité votre mère vous a-t-elle transmise, Lisa ?
Ma mère est une personne tellement féminine, tellement belle. Elle faisait très, très, très attention à son maquillage. Donc moi, j'ai des souvenirs d'enfant où je la regardais se maquiller et s'habiller pendant des heures. Elle avait tous les soirs, elle avait des dîners, des galas, des choses. Et le truc qu'elle m'a transmis, c'était sa manière à elle qu'elle avait de se maquiller, souvent aussi un peu avec les doigts, de manière un peu très autonome. Elle disait, tu vois, moi je fais ça comme ça, les maquilleurs, ils savent pas maquiller. Et puis aussi, elle prenait des bains pendant des heures et parfois, on pouvait avoir des conversations avec elle quand elle était dans la baignoire. C'était un moment un peu privilégié.
Est-ce que vous entriez dans la baignoire, comme l'héroïne de LOL ?
Non, c'est marrant, j'y ai jamais pensé. J'ai pas le sentiment. On prenait des douches. Il y avait une douche aussi qui était sympathique, mais j'ai pas l'impression qu'on prenait des bains, non. Ça, c'est marrant, je sais pas. Je l'ai fait avec mes enfants, c'est pour ça que c'est dans LOL.
Mais le bain, c'était un moment propice à la confidence avec votre mère ?
Oui, c'était pas à la confidence, parce que malheureusement, il y a toujours eu quand même une petite barrière. Il n'y avait pas vraiment d'accès aux câlins, aux bras, bon, à tout ce monde un peu intime. Donc, voilà, il y avait quand même une barrière par rapport à ça. Mais par contre, on était tous à poil dans la maison, on se baladait. Il n'y avait pas de pudeur. Il n'y avait pas d'intimité, mais il n'y avait pas de pudeur. Et ça, c'est pas mal aussi, je trouve.
Pourquoi c'est pas mal ?
C'est pas mal parce que du coup, le rapport au corps est aussi un petit peu démystifié. Chez nous, on était assez libres dans le fait de nous balader tout nus, quoi. C'est vrai qu'après, quand je suis partie vivre chez mon père, alors là, c'était une famille beaucoup plus juive, marocaine. C'était pas du tout à la mode de se balader à poil. En plus, bon, c'était mon père. Moi, j'avais 12 ans, donc je commençais un petit peu à me former et... Je me rappelle, une fois, j'étais partie en vacances chez des amis de mon père au Maroc. Et puis, je suis sortie de la douche à poil devant tout le monde. Et là, il y a eu un silence dans le salon. Tout le monde m'a regardée. Et j'ai senti que c'était pas la mode chez eux, quoi. Et c'est vrai que tout à coup, peuvent s'inscrire à ce moment-là dans le corps des mini-hontes, des mini-bugs, en fait.
Et justement, adolescente, comment est-ce que vous avez vécu la transformation de votre corps ?
Bah déjà, j'ai vécu cette transformation de manière assez solitaire puisque je suis partie de chez ma mère à l'âge de 12 ans. Et puis, j'ai commencé à devenir une jeune fille vers 13 ans avec des seins qui ont mis beaucoup de temps à pousser, des règles qui ont mis beaucoup de temps à venir, etc. Donc déjà, je n'étais pas tout de suite confirmée dans le fait que j'étais une femme. Je suis restée longtemps un petit peu très maigre, très petite fille, pendant que toutes les autres copines avaient déjà des seins, etc. Donc évidemment, dans les booms, je n'étais pas la privilégiée avec qui les garçons se jetaient pour danser des slow, parce que je pense qu'ils aimaient bien tripoter des fesses et des seins. C'était les premiers émois. Mais j'ai été un petit peu solitaire dans cette rencontre avec mon corps qui se développait, qui devenait femme. Mais j'avais la chance d'avoir une amie et sa maman qui me dirigeait un peu. C'était un peu comme une deuxième mère pour moi. Donc, je suis allée acheter des serviettes avec elle, des soutiens-gorge avec elle, des tampons. Le premier tampon... on regarde le dessin, on comprend rien, on essaye de le mettre, ça rentre pas, on a peur. Enfin, c'est tout ça, je me rappelle assez. C'est vraiment pas très accompagné tous ces moments-là, je trouve, pour les jeunes filles. L'image par rapport au corps à cette époque-là commençait à se faire évidemment avec les magazines, avec les publicités, avec Nastassia Kinski aussi dans La Fille, dans La Féline, dans Tess. Enfin. Voilà, forcément, je crois que comme moi, j'avais pas beaucoup de références ou je sais pas, j'étais un petit peu paumée par rapport à ça. Je me suis peut-être beaucoup construite aussi par rapport aux images que le cinéma me renvoyait. En fait, à cet âge-là, j'ai tout de suite compris que les seins étaient une très jolie arme de séduction. Et j'avais la chance d'être vraiment très, très bien foutue. J'étais assez jolie. J'ai trouvé ça assez jouissif de récupérer du pouvoir avec ce corps qui devenait attractif, féminin, par rapport à ce sentiment où j'avais été tellement démunie, petite, chétive, maigre, dans mon enfance. Et forcément, j'ai très vite eu envie d'en jouer, quoi.
En devenant jeune femme, vous êtes sentie plus forte.
Ah, je me suis sentie carrément armée, quoi.
Armée de seins, armée de fesses.
Armée de seins, armée de fesses, armée de séduction, armée de pouvoir, armée de plein de choses. Enfin, ça, c'était, ça a été après mon premier petit ami, en fait. Parce qu'avant, j'avais quand même ce passage à passer qui était de perdre ma virginité. Parce que chez les femmes, on perd quelque chose, bien sûr. Et ça m'angoissait. Je me disais, mais je vois pas comment ça va rentrer. Je vois pas comment ça fait pas mal.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 16 ans à l'époque. Mais j'étais en terminale, parce que j'étais assez en avance à l'école. Donc, toutes les filles, évidemment, en terminale, avaient déjà plus ou moins couché avec un garçon. Donc, je me sentais un petit peu à la traîne. Je me suis toujours sentie un petit peu à la traîne. J'avais eu deux petits copains à qui j'avais roulé des pelles. J'avais extrêmement peur du contact physique avec les garçons quand j'étais jeune. Le premier slow, dans la première boum où je suis allée m'enfermer dans les toilettes. Tellement je voulais pas qu'on m'invite, tellement je voulais pas sentir le corps d'un garçon contre moi. J'avais peur terriblement de ça.
Et comment vous avez surmonté votre peur ?
J'étais à la fois très fleur bleue, très romantique et très apeurée par l'approche de l'homme vers moi, jusqu'à ce que je rencontre mon premier petit ami qui s'appelait Olivier, avec qui je suis toujours en rapport aujourd'hui. Et c'était un tel ami, c'était une telle relation à la fois fusionnelle, belle, frère-sœur, jolie, qu'il n'y a eu aucun problème en fait. J'ai été très 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 bien accompagnée dans cette relation. Cette première relation a été tellement merveilleuse que finalement ça m'a débloqué toutes mes peurs. C'était divin comme ça devrait l'être un peu pour toutes les premières fois. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais
vous racontez aussi qu'à 17 ans, vous prenez pour la première fois la parole dans une table d'hommes. Est-ce que vous aviez peur ?
Non, en fait, ça, je l'ai écrit, je crois, dans mon livre. C'était peut-être pas à 17 ans, c'était peut-être à 15. Ou... Bref, il y avait tous les vendredis soirs, il y avait le Shabbat, souvent. Les hommes parlaient sans cesse. Israël, Palestine, les Juifs, les Arabes, le conflit israélo-palestinien, et blabla, et machin, et la politique, et les ministres. Et je me disais, mais ils n'ont rien d'autre à se dire. Pourquoi personne se demande comment on va ? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Pourquoi on ne s'intéresse pas à notre famille ? Pourquoi on s'intéresse à ce point-là, à ce truc complètement abêtissant et débile et changeant et mouvant que pouvait être la politique et surtout un conflit auquel déjà je ne comprenais pas grand-chose. Et puis tout le monde se disputait, quoi. Personne n'était d'accord. On avait l'impression qu'ils commençaient des conversations juste pour pouvoir avoir le plaisir de se faire la guerre, de ramener la guerre de ce conflit à table. Et j'étais outrée parce que moi, je voyais ma grand-mère qui passait des heures en cuisine et des jours en cuisine pour pouvoir proposer tous ces... mais et ces petites salades et ces kilos de poivrons épluchés et mes tantes et tout. Et puis, les hommes, comme ça, ils parlaient politique en n'ayant rien à foutre de tout ce temps. Personne disait « Oh, c'est merci beaucoup pour le temps où tu as préparé cette nourriture qui nous permet d'être tous rassemblés. » Non, c'était un dû. Et c'est vrai que je me suis mise à parler. J'ai tout de suite senti qu'on n'en avait vraiment pas grand-chose à faire de ce que j'avais à dire. Et j'ai tout de suite senti que j'en avais rien à faire, qu'on n'en ait rien à faire, en fait. J'avais des trucs à dire.
De quoi vous avez parlé ?
Déjà, j'ai dit qu'une fois que le conflit israélo-palestinien serait réglé, si un jour il l'était, il restera le conflit primordial qui était l'homme et la femme. Et que ça n'avait pas l'air de se régler aussi facilement, et en tout cas que si on n'y réfléchissait pas un peu intensément, le monde tournerait jamais rond.
Donc les graines de votre engagement, Lisa, ont été plantées là.
Bah clairement, c'est la suite de cette injustice que je ressentais dans le traitement fait aux femmes et aux hommes, où en gros les femmes étaient cantonnées à la cuisine et à débarrasser et à mettre le couvert, et les hommes avaient la parole et raison en plus. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose de pathétique dans ces cultures qui s'occupaient pas des femmes en fait.
Est-ce que c'est pour cette raison-là qu'après vos études à Dauphine, vous décidez de vous bifurquer vers le cinéma et vous décidez de prendre la caméra pour parler de l'intime notamment?
J'écrivais déjà pas mal, j'écrivais Cher Journal, voilà, blablabla. C'était un journal intime. Et puis tout ce que je vivais, je le commentais toujours dans ma tête comme si j'étais le romancier de ce que je vivais, en fait. Et je pensais que tous les gens étaient comme ça, et même jusqu'à assez récemment. Finalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui romancent ce qu'ils vivent en direct dans leur cerveau. Je voulais toujours faire du cinéma. Au départ, je voulais être actrice, parce que ça me paraissait la seule chose à faire. Je ne savais même pas, en fait, que j'aurais pu être metteur en scène. C'était, encore une fois, pour moi, c'était un endroit pour les hommes de mettre en scène.
Et il y avait peu de rôles modèles à l'époque, parce que les réalisatrices étaient rares.
Oui, en fait, moi, je ne connaissais pas Agnès Varda, qui est à peu près la seule qu'on nous cite encore aujourd'hui, donc c'est pour dire, dans les femmes très connues, réalisatrices. Puis en fait, tout le reste, bah, c'était des hommes. Hein. Dans les années 70-80, c'était vraiment... C'était très, très masculin, donc je ne pouvais pas imaginer faire ce métier-là. Normalement, quand on voulait faire du cinéma, qu'on était un peu jolie, jeune et tout ça, bah, on était actrice, quoi. Puis ma mère était actrice, donc ça me paraissait aller de soi. Au départ, j'avais été pressentie pour jouer dans Beau-père de Bertrand Blier. Et en fait, mes parents s'y sont opposés, ce qui m'a beaucoup, beaucoup blessée. Et ça m'a un peu mis une croix sur ce destin-là d'actrice que j'avais déjà un peu tout tracé puisque j'avais fait des essais avec Patrick Devers. J'étais hyper heureuse de faire ce film. Je sentais que je pouvais vraiment dire des choses à travers ce métier d'actrice. Et puis finalement, ça a été avorté dans l'œuf. Du coup, j'ai continué mes études et puis j'étais avec mon amoureux. On est parti à Dauphine faire des études de finance dont évidemment, j'avais rien à faire. Et je trouvais ces études aussi ridicules que les conversations politiques que j'avais dans mes dîners.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la caméra pour faire vos propres films ?
Ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai fait ces études et puis après, je me suis dit bon, ben, je vais prendre un métier qui correspond à ces études. Donc je me suis retrouvée dans la finance. Et là, pareil, quoi. Je trouvais que c'était un métier plein d'hommes. Alors ça, j'aimais bien, mais j'ai toujours adoré la compagnie des hommes. Hein, quand on se méprenne pas, je les trouvais fort sympathiques et rigolos, surtout au bureau. C'était vraiment une ambiance goyarde, très très misogyne, mais avec beaucoup d'humour. Donc ça me faisait marrer. Puis j'aimais bien. Je me sentais un homme aussi parfois. En fait, pour ne pas souffrir d'être une femme, je suis vite devenue un homme dans mon cerveau et parfois même dans mon corps. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais ce métier est vraiment inintéressant. En plus, il y a eu une crise boursière, j'ai perdu de l'argent. Et là, je me suis retrouvée au chômage, parce que j'ai arrêté au bout d'un an, j'ai trouvé ça tellement ridicule. Et puis, j'avais une amie qui m'a présenté un décorateur de cinéma qui s'appelait Yvan Motion, qui faisait beaucoup, beaucoup de décors. Et il m'a proposé d'être sa stagiaire. Et en fait, je suis devenue stagiaire sur les tournages. J'ai fait un an tous les métiers. Déco, stagiaire régie, script, assistante mise en scène, production. J'ai fait tous les corps de métier sur un tournage. J'ai adoré ça.
Et le fait de devenir réalisatrice?
Alors ça s'est fait au bout d'un an et demi de stage. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, j'ai tout appris. Et puis comme j'avais des énormes facilités d'écriture, je me suis dit, bah, je vais faire un film. Donc j'ai fait un court-métrage, mais ça me paraissait... C'est comme si j'étais un peu à l'université quand j'étais stagiaire. Et puis tout à coup, j'ai dit, bon, bah, j'ai plus rien à apprendre, j'ai compris. Mais je ne me suis pas dit, je vais être réalisatrice. Je me suis dit, je vais raconter une histoire. Voilà. Donc j'ai pris la caméra. Mais je ne mettais pas le mot encore, je suis metteur en scène, je suis réalisatrice. Mais quand je me suis retrouvée derrière la caméra et que j'ai compris que c'était moi le chef, en fait, que c'était moi qui dirigeais tout le monde, je me suis dit, ah, mais c'est ça, en fait, c'est là que je dois être. Mais vraiment, je me suis dit, c'est ça. Voilà.
Vous vous sentiez alignée?
Ah, complètement alignée. J'en revenais. En fait, je n'avais pas prévu que ça me plaise autant, en fait. Moi, je me suis dit, bon, je vais faire un court-métrage, puis après, je ferai ci, je ferai ça. Je n'ai pas pensé que ça allait être ça, mon métier, quand je l'ai fait. Je voulais juste raconter cette histoire. Et puis, bon.
En 2009, Lisa, vous réalisez LOL avec Sophie Marceau, un film sur les relations mère-fille, les premières amours, la féminité naissante. Vous avez mis beaucoup de vous dans ce film?
En fait, j'ai toujours mis beaucoup de moi dans les films. Le premier film que j'ai fait, qui est pas rien, parce que c'était mon premier long métrage, c'était Comme t'es belle. Et justement, c'est ce film-là qui retrace tout l'aspect féminin de cette culture orientale qui m'avait fait tant souffrir quand j'étais jeune. C'était une manière pour moi de rendre hommage à mes tantes, à mes grands-mères, à toutes ces femmes qui cuisinent et qui font ces repas de famille. Et ça a été une expérience assez difficile en termes de tournage parce que il y avait beaucoup de personnages, c'était vraiment compliqué, j'avais pas beaucoup de sous pour le faire, etc. Mais ça a été une première expérience démente où vraiment j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et puis après, moi j'avais une fille qui avait 15 ans à l'époque. Et puis j'ai voulu regarder un film d'ado avec elle et en fait il me restait que La Boum. Et en regardant La Boum, ma fille m'a dit « Oh là là, c'est dingue comme tu ressembles à Brigitte Fossé, quoi. Tu dis la même chose qu'elle. » Alors que moi dans ma tête j'étais restée Vic Béretton. C'est là que j'ai compris que j'avais vieilli et c'est là que j'ai compris aussi que j'ai rien passé au niveau des adolescents depuis La Boum, qu'il n'y avait pas de film référence français. Et comme ma fille était ado, qu'elle n'arrêtait pas de commencer à faire des booms à la maison, que j'avais droit aux histoires de cœur, de pleurs, etc. Puis que moi, je me sentais un petit peu à la fois vieillir et en même temps adolescente aussi, puisque je venais de divorcer et que c'était un moment un peu adolescent de ma vie. Donc il y avait cette espèce d'adolescence un peu parallèle entre ma fille et moi. Et j'ai eu envie de parler de ça, en fait.
Et vous vous attendiez au succès de ce film?
Oui.
Ah oui.
Moi, je crois toujours que des milliards de gens vont voir mes films. Et puis après, quand ça n'arrive pas, parce qu'en général, ça n'arrive pas. Sur LOL, c'est arrivé, mais après, c'est un petit peu moins arrivé. Je suis toujours un peu déçue, mais disons que le désir au départ de faire un film, c'est que je me dis qu'il va faire du bien à tout le monde. Donc j'imagine un maximum de personnes dans la salle. Mais là, je sentais que les ados en avaient besoin et surtout que les mamans en avaient besoin aussi pour se déculpabiliser. J'étais entourée de femmes qui avaient eu des enfants à peu près au même âge que moi. Et les femmes me disaient « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour rater à ce point-là mon éducation ?» Et je leur dis « Mais non, vous n'avez rien raté, elles sont juste ados. Elles vous détestent et c'est normal. Sinon, ça ne se passerait pas bien en fait. » Et c'est pour ça que j'ai eu envie aussi de faire ce film. Tous les films que je fais en général, c'est pour déculpabiliser les femmes, de penser ce qu'elles pensent et d'être ce qu'elles sont, quoi.
En mars 2016, vous décidez de mettre votre notoriété au service des femmes en lançant l'association Ensemble contre la gynophobie. Pourquoi ce nom?
En fait, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de mot parapluie pour parler des violences faites aux femmes. On parle toujours de violences faites aux femmes. Violence, quelle violence? On ne sait pas. Faites par qui? On ne sait pas. Aux femmes, bon. Ça continue à victimiser les femmes dans un cadre de violence, alors qu'on parle d'antisémitisme, de racisme, d'homophobie. Et ça peut prendre plusieurs formes très différentes, quoi. C'est-à-dire que le racisme, ça peut être d'insulter quelqu'un par sa race dans la rue, ou ça peut être le poignarder ou aller saccager une tombe. Dans tous les cas, c'est pas les mêmes actes, mais on va dire il y a eu un acte de racisme, d'homophobie, d'antisémitisme. Pour les femmes, il n'y avait pas ce mot, en fait. Tout simplement, il n'y a pas. Le mot n'existe pas. Et je me suis dit, si le mot n'existe pas, c'est pas un hasard, en fait. C'est qu'il y a une vraie volonté, ou en tout cas un vrai aveuglement pour ne pas voir que toutes ces petites choses qui sont faites contre les femmes, ça ne porte pas un nom. Et puisque ça ne porte pas un nom, comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Donc moi, j'ai voulu nommer la chose et j'ai voulu l'appeler gynophobie, gyno de femme. Et puis, phobie, c'est peur, haine, mépris. Après, on m'a rétorqué, est-ce que tu crois vraiment que c'est un mot qui va changer les choses? Bon, quand on sait que grossophobie est rentrée dans le dictionnaire, oui, je pense que oui. Le féminicide est rentré, c'est pas mal. Mais la gynophobie, je sais pas. Alors, j'ai peut-être pas assez milité pour que ça existe. Mais bon, j'ai été rattrapée par tout le mouvement MeToo, balance ton porc et tout ça. Et finalement, je me suis dit, c'est pas plus mal que ce soit un hashtag, que tout à coup, on en prenne conscience avec autre chose. Moi, mon but, c'est pas forcément d'imposer un mot que j'aurais créé. C'est que la conscience collective sache que, sous prétexte qu'on est une femme, on peut pas souffrir plus, quoi.
Et c'est justement dans le milieu du cinéma que l'affaire Weinstein a éclaté. Comment est-ce que vous avez traversé, vécu cette l'affaire Weinstein et la vague MeToo et la prise de conscience planétaire qui a suivi ?
J'ai été à la fois émerveillée par ce mouvement collectif et choquée par tout le côté McCarthyisme des dénonciations de ci, de là. Et en même temps, j'utilise toujours cet exemple, et il est encore valable à mon avis, c'est que quand on est en train de ranger sa chambre, il y a toujours un moment où c'est plus le bordel qu'au début. Il y a toujours un moment où on se dit « mais pourquoi j'ai commencé à ranger ? On est désespéré, c'est un capharnaüm, il y en a partout, on ne sait pas quoi jeter, quoi garder, etc. » On est submergé par ce bordel ambiant, et c'est ce qui se passe en ce moment. Mais je voudrais revenir, quand vous dites « c'est pas un hasard si c'est arrivé dans le cinéma », c'est d'autant moins un hasard qu'en fait l'image de la femme, la « good housewife », la bonne femme à marier, la bonne épouse, etc., l'image de la femme objet après, l'image d'une certaine sensuelle, l'image des putes, l'image de tout ça, a été véhiculée par le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma, depuis que ça existe, ça fait presque un siècle, véhicule à sa guise l'image des femmes. Hollywood a formaté une certaine image de ce que doit être une relation homme-femme, de ce que doit être une femme, comment on doit être belle. Hollywood a servi toute l'industrie cosmétique, de la mode, etc., pour justement servir tout le côté commercial lié à la séduction et à la beauté des femmes. Donc c'est pas un hasard que par là où on a péché, on se retrouve censuré finalement. Et ce ras-le-bol là, il est archi normal. Et je peux que me réjouir que on soit en train de ranger la chambre. Maintenant la chambre elle est pas rangée du tout. C'est compliqué d'aller dénoncer son patron. C'est compliqué de dire les choses. Faut savoir que un viol sur 10 va aller à la plainte, et une plainte sur 10 va aboutir. Qu'est-ce qui, en nous, a tant de mal à censurer le viol ? En tant que femme, en tant qu'homme, pourquoi ça coince à ce point-là dans la société ? Pourquoi y a des sociétés, quand on vole une orange, on vous coupe la main, ça choque pas ? Enfin, ça choque un peu quand même, mais pourquoi, quand on viole, pourquoi le corps des femmes dans l'inconscient collectif appartient au collectif ? Est-ce que c'est parce qu'on met au monde les bébés de tout le monde ? Qu'est-ce qui se passe ? Moi, ça m'interroge beaucoup. Et vraiment, on a fait énormément de progrès quant à la conscientisation du problème. On a fait zéro progrès en ce qui concerne le problème réel. Tant qu'on ne peut pas être dans nos rues le soir, tranquille, tant qu'on ne peut pas prendre le métro sans avoir peur de se faire agresser, tant que l'agression reste une possibilité, si ce n'est une probabilité, je vois pas ce qui a changé, en fait.
Cette culture du viol, ce sexisme, ces violences, ça démarre dès l'école. Vous en avez fait la matière de votre dernier documentaire, Rio Love. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ce film ?
Mais en fait, justement, ça a été tellement le raz-de-marée avec MeToo et Balance ton porc que j'ai décidé de faire un pas de côté. Et je me suis dit... En fait, ma génération, les relations hommes-femmes, c'est un petit peu cramé. C'est-à-dire que ça ne va pas s'arranger avant un bon bout de temps. C'est une éducation. Donc, j'ai eu envie de me tourner vers les enfants, en fait. Parce que là, on peut vraiment agir. Il y a un endroit où on a des enfants de 3 à 16 ans. C'est à l'école. Et c'est à l'école que ça démarre, en fait. C'est à l'école qu'on peut infléchir ce mouvement, cette tendance à la violence, cette violence intrinsèque qui est vraiment partout aujourd'hui parce que ça a été à la mode. Moi, j'y suis allée pas pour dire « ça va pas, regarder les filles et les garçons sont hyper violents ». J'ai voulu au contraire aller tourner dans des établissements qui font en sorte d'appliquer la loi qui existe depuis 2001, qui consiste à obliger toutes les écoles à faire 3 fois 2 heures par an pour rétablir et pour parler de ces questions de sexualité, de vivre ensemble, de garçons-filles, de rapports entre les garçons et les filles, de sexisme, de harcèlement aussi. Et ce qui m'a le plus troublée, parce que je suis vraiment allée là-bas un petit peu pour prendre la défense des filles, comme d'habitude, et ce qui m'a le plus troublée, en fait, c'est le désarroi des garçons. Ça m'a émue aux larmes, parce que d'abord, ce hashtag que je déteste, qui était « balance ton porc », ça les a beaucoup touchés. Ils se sont dit « mais moi, est-ce que je suis le porc de quelqu'un? Est-ce que je suis un porc ?» Tiens, je m'étais jamais posé la question. C'est quand même une question qui se pose. Ensuite, les filles sont devenues super trash aussi. Elles aussi, elles regardent du porno, il faut pas croire. Elles aussi, elles ont envie d'être belles, d'être bonnes, d'être sexuelles, d'être sensuelles. Et donc, elles croient qu'il faut agir comme une hardeuse pour être acceptée dans un lit. Les codes, il n'y a pas un enfant de plus de 10 ans qui n'a pas vu du porno. C'est-à-dire que l'âge moyen d'un enfant qui regarde du porno, c'est 10 ans. C'est évidemment, ça détruit un cerveau, ça détruit une sexualité, ça détruit un rapport garçon-fille. Les garçons sont en désarroi, ils savent plus comment parler à une fille, ils savent plus comment se regarder, ils savent plus ce que c'est qu'être un homme, tout bêtement, et c'est normal, puisqu'on est en train de déconstruire le masculin. C'est pas une mauvaise chose, parce que le masculin avait tendance à être comme un acte de propriété sur la terre entière, et on est en train, que ce soit par l'écologie, par les rapports hommes-femmes, par tout ça, on est en train de dire, non, personne n'a du titre de propriété sur personne, ni sur rien, ni sur les animaux, et c'est une belle chose. Mais on est quand même en train de déconstruire un sacré truc qui est le masculin dominant, dominateur. Et en fait, on s'est construit là-dessus sans se remettre en question. Donc je pense que dans ce cadre-là, la fiction a énormément à faire. Parce que la fiction permet au cerveau d'aller quelque part, d'autre, que soi-même, que l'instant présent, que la réalité. Et la fiction peut ramener dans la réalité des prises de conscience. Et pour se réinventer du désir, je pense que la fiction a un rôle énorme à jouer. Alors, le cinéma, je sais pas, mais en tout cas, les séries, même les jeux vidéo, enfin, tout ce qui n'est plus de l'ordre du réel est, à mon avis, la seule possibilité d'impacter le réel aujourd'hui.
Merci, Lisa.
Merci.
Et merci de nous avoir écoutés. Découvrez le film Your Love de Lisa Azuelos qui fait l'objet de projections débats partout en France. Vous pouvez aussi soutenir l'association Ensemble contre la gynophobie à travers le site www.nogynophobie.org. Enfin, vous pouvez également aller voir le prochain film de Lisa Azuelos intitulé Mon bébé avec Sandrine Kiberlin et Yvan Attal qui sera en salle à partir du 13 mars 2019. Je suis Dalila Kerchouche et vous venez d'écouter Désir by Madame Figaro. Suivez-nous et abonnez-vous à l'émission sur toutes les applications de podcast, iTunes, Deezer, SoundCloud, YouTube et Google Podcast. Vous pouvez aussi suivre Madame Figaro sur Facebook, Twitter, @MadameFigaro et sur Instagram, @MadameFigaroFR. Ce podcast Madame Figaro est réalisé avec Louis Média. À bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, écoutez vos désirs.